Radio Okapi.
Présentation du journal Babel Pongo Massimango. Bonjour, les investigations pour retrouver l'Antonov 72 disparu depuis jeudi se poursuivent. Cette fois, les recherches se concentrent sur la région du Sankuru. Des débris d'avion ont été aperçus, région que le gouverneur de cette province et une équipe de la MONUSCO ont survolé hier. Le gouverneur Joseph Stéphane Mukumadi nous apporte quelques précisions. Ici à Kinshasa, les travaux de construction du centre culturel et artistique de l'Afrique centrale et du campus moderne de l'INA peuvent reprendre. Ces travaux de 30 mois seront exécutés par une entreprise chinoise. Le Premier ministre a visité le site hier. Projet de loi des finances 2020, le budget passe de 7 à 10 milliards de dollars américains sur décision du Conseil des ministres. Nous en parlons avec notre invité, le vice-premier ministre et ministre du budget, Jean Baudouin-Maillot. Avion assurant la logistique présidentielle disparu depuis jeudi. Le gouverneur du Sankuru et une équipe de la MONUSCO ont survolé hier en hélicoptère la zone où des débris d'un avion ont été découverts en fin de semaine dernière dans les territoires de Kolé. La délégation a atterri à Okoto, village situé à 7 km du lieu où l'appareil a été signalé. Le gouverneur du Sankuru, Joseph Stéphane Mukumadi, qui dit réserver la primeur de l'information aux autorités du pays, annonce qu'il va se rendre à nouveau dans la zone aujourd'hui. Il donne quelques précisions au micro de Joël Bofengo.
Je pense que la primaire, nous la réservons d'abord à l'autorité. Nous nous sommes rendus sur place. Nous avons rencontré des gens qui ont été jusqu'à l'épave de l'avion. La suite sera connue dans les heures qui vont suivre.
Vous-même, vous n'avez pas vu personnellement l'épave de l'avion?
Je n'ai pas vu l'épave de l'avion, mais nous avons survolé la zone où l'épave de l'avion, car c'est en pleine forêt, et il n'y avait pas moyen d'atterrir. Sinon, de demain, nous reprenons encore le périple, afin de pouvoir apporter plus d'informations à l'opinion.
Est-ce que vous avez pu parler avec les habitants d'Okoto?
Oui, j'ai rencontré les habitants, j'ai rencontré même l'équipe d'avance que j'avais envoyée sur terrain, c'est-à-dire les forces de l'ordre de Sankuru, qui étaient sur le lieu. Nous avons échangé, ils m'ont rapporté un certain nombre d'éléments que j'apporterai d'abord. La première, je la réserve à l'autorité.
Joseph Stéphane Mukumadi qui s'est exprimé donc hier au micro de Joël Bofengo. Notez que depuis samedi que les hélicoptères de la MONUSCO ont survolé les zones présumées du crash. Selon Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO, la mission onusienne dispose d'équipements ainsi que du personnel entraîné pour ce genre d'opération. Elle a toutefois précisé que cette mission se déroule dans des conditions difficiles. Il y a d'abord les conditions météo qui ne facilitent pas les recherches, l'accès à la zone et les communications ne sont pas non plus aisées. L'avion de l'armée assurant la logistique présidentielle en Antonov A72, parti de Goma pour Kinshasa, a disparu depuis jeudi dans l'après-midi, une heure après son décollage. Au Nord Kivu, les FARDC préparent depuis quelques jours une grande offensive contre les rebelles ougandais de l'ADF. Ces derniers sont accusés de massacres et enlèvements des civils depuis 5 ans à Beni. Sur place, l'armée vient d'annoncer certaines mesures pour permettre aux FARDC de bien mener ses opérations, nous dit Martial Papimukeba.
Pour le FARDC, ces mesures sont prises pour ne pas exposer les civils comme cible des ADF au lancement des opérations contre ces groupes armés. Le général Sylvain Ikenge, porte-parole adjoint de l'armée, parle de l'interdiction pour la population d'accéder à toutes les positions militaires dans la zone opérationnelle de Beni.
Sur instruction du chef d'état-major général, le commandant de la zone de défense a répété des ordres au commandant du secteur opérationnel qui a diffusé un télégramme qui interdit l'accès des civils dans les positions militaires. Et tout commandant qui sera surpris avec des civils dans ces positions suivra la rigueur de la loi.
Le porte-parole adjoint des FARDC annonce également l'interdiction aux véhicules de l'armée de transporter des effets qui n'appartiennent pas aux militaires.
Le véhicule militaire ne transporte que les rations destinées aux militaires, les ravitaillements en termes d'armes et de munitions. Tout convoyeur qui sera surpris avec des marchandises autres que les effets militaires, il subira la rigueur de la loi. Donc, toutes les dispositions ont été prises pour que les situations qui ont été vécues par les passés ne reviennent plus.
Signalons que depuis quelques jours, plusieurs militaires arrivent à renfort dans la région de Beni. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Manifestation hier à Mbujimayi. Des agents et cadres de la SCPT, la Société Congolaise des Postes et Télécommunications, ils sont descendus dans la rue pour réclamer 3 véhicules et les équipements de maintenance saisis par le parquet général depuis juin dernier, juste après la fin des travaux d'installation de la fibre optique au Kasaï Oriental. Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise chinoise China International Technology Company. Le procureur général explique de son côté qu'aucun accord n'a été signé entre l'entreprise chinoise et la SCPT autour de la remise de ces équipements. Le point avec Esther Dalafina.
Près d'une cinquantaine d'agents et cadres de la Société Congolaise de Postes et Télécommunications ont manifesté sur les grandes artères de la ville de Mbujimayi depuis la mi-journée jusqu'en début d'après-midi. Leur marche est partie de leur siège sur l'avenue Inga en passant par l'avenue Kasengoulou, le boulevard Laurent-Désiré Kabila avant de chuter au gouvernorat des provinces où ils ont été reçus par l'autorité provinciale. Célestin Moukala, vice-président de la délégation syndicale.
Il n'y a pas une plainte des Chinois, mais on voit que le parquet a une mauvaise volonté et aussi une mauvaise intention, comme s'ils voulaient s'accaparer de ces biens-là. Et pourtant, le travail est là. Le chef de l'État est en train de cloner le système du numérique qui a pour socle la fibre optique. On est bloqué, on ne sait pas travailler.
Contacté, le procureur général rejette ces accusations. Selon lui, aucun accord n'avait été signé entre la SCPT et l'entreprise chinoise autour de la remise des engins à la SCPT. Romuald Mpungwe.
Notre partenaire, la société chinoise, qui s'est pas encore présenté. Si on est dans la société chinoise, le représentant confirme que ces véhicules reviennent de droit à la poste, on remet à la poste, il n'y a pas de problème.
Signalons que quelques coupures de la fibre optique sont déjà signalées et nécessitent une réparation sur la ligne Mbujimayi-Kabeyakamanga, Mbujimayi-Luputa, à plus ou moins 170 km de Mbujimayi. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les travaux de construction du Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale et du campus moderne de l'Institut national des arts INA peuvent reprendre. Ces deux bâtiments seront érigés le long du boulevard Triomphal en face de la façade du Palais du Peuple. C'est ce qui ressort de la visite d'inspection effectuée hier sur ce site par le Premier ministre. La construction de ces deux édifices par une entreprise chinoise pendant 30 mois. Ces travaux étaient suspendus à titre conservatoire sur instruction du ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou. Yokalie Moudaba, directeur général de l'INA faisait partie de cette délégation. Il apporte des précisions sur ses travaux au micro de Paul Matendo.
De son excellence, monsieur le Premier ministre, il a pu constater que les travaux redémarraient et que les textes qui décernaient, qui octroyaient la propriété du terrain, ces textes étaient à jour. Donc, à la suite de cela, les travaux vont recommencer et donc il faut compter qu'avec la pose de la première pierre qui interviendra incessamment, il faut compter 30 mois pour que les travaux puissent prendre fin, grâce à la coopération chinoise.
Quelle entreprise va conduire les travaux?
C'est une entreprise chinoise, c'est une grosse entreprise. C'est cette entreprise, entre autres, qui a construit le stade de Pékin, le grand stade qui ressemble à un nid d'oiseau à Pékin, et qui a servi à ce grand événement qui était les Jeux Olympiques. Mais c'est aussi cette compagnie qui construit à travers le monde les sites les plus emblématiques.
La ville de Kamina, dans le Haut-Lomami, est privée d'électricité depuis pratiquement 2 semaines. C'est à la suite de l'écroulement des pylônes qui transportent le courant électrique de la centrale de Kiloubi à Kamina Base. Sur place à Kamina, les conséquences se font déjà sentir. Les prix des vivres frais sont revus à la hausse. À la SNAL Kamina, on dit attendre l'arrivée de cornières commandées à Lubumbashi pour établir la situation. Le point avec Jean Gandou.
Ce sont 8 pylônes qui sont couchés après le passage d'un vent violent. Ces pylônes étaient déjà affaiblis par le vol des cornières, ce qui a fait qu'ils n'ont pas résisté au passage du vent. Ces pylônes qui transportent le courant électrique haute tension de la centrale de Kiloubi à la base de Kamina sont séparés l'un de l'autre de 250 mètres. Après leur écroulement, c'est tout Kamina qui est dans le noir, excepté la centrale de Kiloubi. Les rares maisons qui sont encore éclairées sont celles alimentées par le courant de la SNCC. D'après une source proche de la SNEL, ces pylônes sont endommagés. Il faudra donc placer des nouvelles cornières et remplacer celles qui étaient volés. Sur place à Kamina, les commerces qui dépendent du courant électrique recourent au groupe électrogène, ce qui engendre des nouvelles dépenses liées à l'achat de carburant. Conséquence, sur le marché, les prix de certains vivres frais sont revus à la hausse, il en est de même de meunier. Sur 4 stations de radio, 2 sont réduites au silence. Cette situation pourra perdurer jusqu'à l'arrivée des nouvelles cornières déjà commandées à Lubumbashi, renseignent nos sources. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kabim.
Et puis, ces chefs de couture ont été entendus la nuit de dimanche à hier lundi à la prison centrale du cinquantenaire de Bandundu et pour cause, un détenu a tenté de s'évader selon le directeur de la prison. Alerté par les autres prisonniers, les gardiens ont rattrapé ce détenu. Ce dernier a plus tard avoué qu'il voulait simplement tester l'efficacité de fétiches qu'il s'était récemment procuré. Précision à ce sujet avec Irène Boma.
Voulant s'évader de la prison centrale du cinquantenaire de Bandundu la nuit du dimanche 13 au lundi 14 octobre, M. Jean-Paul Djonga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait déjà réussi à casser les plafonds, à enlever quelques tôles et à escalader les murs pour s'enfuir. Il a été aperçu par les autres prisonniers qui ont immédiatement alerté la police de garde de cette prison. Cette dernière a commencé à tirer des balles à l'air pour repérer ces prisonniers qui se cachaient, couchés dans une des latrines de la prison. À en croire ces prisonniers, ils n'avaient pas l'intention de s'évader, mais ils testaient ces gris-gris. Contacté à ce sujet, M. Joseph Bikuku, directeur de cette prison, confirme les faits. Signalons que cette tentative d'évasion n'est pas la première à la prison centrale du cinquantenaire de Bandundu. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
En Guinée, le bilan provisoire des manifestations d'hier contre un potentiel troisième mandat du président Alpha Condé diverge selon des sources. Certaines parlent d'au moins 5 morts et de dizaines de blessés, et 2 décès seulement selon le gouvernement. Des dizaines de personnes ont tenté de manifester leur opposition à une nouvelle constitution qui permettrait au président Condé de rester au pouvoir après ses 2 mandats constitutionnels. C'est à l'appel du FNDC qui regroupe les principales organisations de la société civile et de l'opposition. Les tentatives de rassemblement ont été rapidement avortées par les forces de et de sécurité déployés en nombre dans la capitale. Et puis, les Tunisiens, en particulier les jeunes électeurs, ont confié un mandat présidentiel clair à Kais Saied en élisant avec près de 73% de voix cet enseignant de droit à la retraite, quasi inconnu jusque-là sur la scène politique, pour revitaliser la jeune démocratie. L'instance chargée d'organiser les élections a confirmé hier soir que Saied, âgé de 61 ans, a été élu avec 2,8 millions de voix, soit 72,71% du suffrage et une participation en nette hausse à 55%, une victoire éclatante, titré dès le matin le quotidien arabophone Chourouk.
L'invité.
Le projet de loi de finances exercice 2020, le Conseil des ministres a adopté vendredi le montant de 10 milliards de dollars américains pour le budget de l'État. Il ne s'agit pas d'un budget réévalué, mais simplement l'une de 3 propositions finalement adoptées par le gouvernement. C'est le vice-premier ministre et ministre du budget qui le dit. Jean-Baudouin Mayo Mambeke, qui est notre invité du jour, et répond aux questions de Michel Kifindangori.
Jean-Baudouin Mayo, bonjour.
Bonjour.
Le projet du budget de l'exercice 2020 en réévaluation, on est passé de 7 milliards à 10 milliards de dollars. Comment avez-vous fait pour parvenir à ce 10 milliards de dollars?
Bon, d'abord, il n'y a pas eu de réévaluation. Les 7 milliards étaient une hypothèse. Nous en avons eu 3. Maintenant, nous devrions examiner chacune des 3 hypothèses. La première hypothèse était déficitaire et nous l'avons évacuée parce qu'elle est donc conforme à la loi des finances publiques, la LOFIP. Il nous est resté 2 hypothèses, 7 et 10. Il est vrai qu'avec l'hypothèse de 10 milliards, c'est un bond que nous faisons, c'est un saut que nous faisons. Mais nous avons évalué. Souvenez-vous que le président de la FEC avait dit qu'il y a plus de 15 milliards qui circulent sans que l'État ne puisse les capter. Il a été confirmé en cela par l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de crimes contre l'économie. Le professeur Luzolo Babi, lui aussi l'avait affirmé. Nous avons donc procédé à des calculs, à des évaluations. Si jamais un train de mesure était pris et que on appliquait ces mesures, nous pouvons atteindre 10 milliards, même les dépasser. C'est pour cela que le président de la République, chef de l'État, a voulu, ensemble avec le Conseil des ministres, que nous fassions ce saut-là et que les mesures soient prises et bien exécutées.
Alors, quelles sont les mesures concrètes que vous comptez prendre pour...
Le premier ministre, quand il déposera le budget, qui annoncera ce trait de mesure. Ici, j'interviens pour lever la confusion qu'il y a une réévaluation de cet indice. Donc, c'est que c'était une hypothèse qui était sur la table, qui n'a jamais été adoptée formellement par le gouvernement, même si notre porte-parole en avait parlé.
Est-ce que nous pouvons espérer qu'avec ce budget prévisionnel de 10 milliards, la gratuité de l'enseignement sera effective?
Mais la gratuité de l'enseignement est déjà effective. Elle ne sera pas pour une deuxième fois. Elle est déjà effective, elle est en marche. Il y a bien sûr des mesures d'encadrement, d'ordre réglementaire et financier qui doivent être prises. Et nous travaillons à cela. Le budget de l'exercice prochain a pris en compte la donne gratuite de l'enseignement. Ça, c'est une détermination du chef de l'État. Et le gouvernement est obligé de l'exécuter, et c'est ce que nous faisons. Il n'y aura pas un deuxième lancement de la gratuité de l'enseignement. C'est déjà lancé, c'est fait.
Alors, Monsieur le ministre, le Parlement attend ce projet du budget pour son examen. Est-ce que vous êtes prêt à le déposer au Parlement, et ça serait d'ici quelle période?
Oui, le budget sera déposé au Parlement par le Premier ministre. C'est lui qui est le bureau de l'Assemblée nationale qui conviendra de la date précise qui sera publiée à l'opinion. De toute façon, le dépôt est public, la défense du budget est publique. Et son adoption aussi par l'Assemblée nationale publique. Le peuple suivra.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Merci.
Voilà, c'était Jean-Baudouin Maillot Mambéki, vice-premier ministre, ministre du budget qui s'entretenait avec Michel Lokifinda Angoy. Voilà, c'est la fin de ce journal supervisé par Axel Gancho, mise en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci à vous qui venez de nous suivre. Passez une excellente journée à l'écoute de la Radio de la Paix.